παιχνιδιού.
Salvete omnes, optimum adventum vobis opto in musicam academiam et etiam in scholam novam.
Bonjour à tous, bienvenue dans Musique Académie. Alors aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore remarqué, eh bien nous sommes dans une école. Nous sommes à un cours qui se trouve dans le Brabant wallon, non loin de Jodogne. Une école privée, la Schola Nova. Comme son nom l'indique, Schola Nova veut dire école nouvelle en latin. Et pourquoi le dit-on en latin? Parce que cette école non seulement s'occupe d'enseignement général pour les humanités, également pour les primaires, mais qu'elle privilégie aussi les arts. Et c'est donc ce type d'enseignement qui nous intéresse. Donc nous allons en découvrir plus au milieu de tous ces jeunes élèves qui nous écoutent déjà très attentivement. Alors les enfants, puisque vous êtes là, dites bonjour. Stéphane Fay, bonjour.
Bonjour.
Il fallait que vous soyez là aujourd'hui pour le reportage, puisque vous êtes le fondateur de cette école privée, je rappelle, la Schola Nova, qui comporte à la fois section humanité et section primaire, donc Schola Prima pour la section primaire. Alors, quelles furent vos idées à la base de créer une telle école, puisque, rappelons-le, Stéphane Fay, vous êtes professeur à la base de musique, de piano et d'écriture musicale, c'est ça?
Oui.
Au Conservatoire de Liège, donc une longue carrière de musicien derrière vous. Alors, c'est quoi cette idée tout d'un coup?
C'est-à-dire que la musique est l'art des muses, et alors m'intéressant à l'art des muses, je me suis intéressé beaucoup à l'Antiquité notamment, et à force de cultiver les muses et de traduire des vieux traités qui étaient ma passion, mon hobby, en plus de mes activités musicales de chef d'orchestre aussi, de chef de chœur, j'ai voulu en faire profiter mes enfants. Donc ce n'est pas par idéologie que j'ai décidé de fonder cette école, c'est par vraiment nécessité. J'ai préféré faire venir l'école à moi plutôt que devoir me déplacer pour avoir droit à l'héritage dont nous bénéficions tous dans le temps.
Alors moi j'ai joué l'avocat du diable, Stéphane Fay, forcément. On vous l'a certainement posé plus d'une fois cette question. Le latin et le grec ne sont-ils point ringards?
C'est ce que l'on dit, mais figurez-vous que les mouvements de latin vivant se multiplient à une vitesse incroyable. Allez voir sur Internet tous les sites de latin vivant, par exemple Nunti Latini, Ephemeris, etc. Vous verrez la pendaison de Saddam Hussein en couleur, commentée en latin. Vous verrez Barack Obama interviewé, tout est en latin. Et donc, il y a une monnaie unique en Europe, où on n'a pas d'ailleurs consulté les gens pour leur faire cette monnaie qui est remarquable. Je ne vois pas pourquoi cette langue qui correspond à 85% de la littérature de l'Occident, qui a été la langue d'une Europe qui était faite depuis 2000 ans, ne pourrait pas être conservée. Et donc, cette passion des auteurs qui m'avait été communiquée par l'enseignement officiel de la Belgique, j'ai voulu simplement faire hériter mes enfants. Et donc, nous avons commencé ici. Voilà.
Alors, on sait tous, ça c'est dans tous les manuels, n'importe quel manuel va vous le dire, que le latin et le grec sont deux apprentissages qui ne sont peut-être pas nécessaires, mais qui apportent énormément à l'ouverture d'esprit de chacun. Alors, l'apport du latin et du grec, c'est quoi chez ces petits, chez les plus grands?
L'apport du latin et du grec, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, permettre à nos descendants d'avoir accès à la littérature qui a nourri leurs ancêtres, puisque 85% de la littérature...
Ça, on le sait. Bon.
Donc, c'est déjà en soi tout à fait suffisant. La connaissance des racines de toutes nos langues, notamment du français, qui est une langue des Francs, c'est-à-dire des Germains. Les Français sont des Germains, et jusqu'à la Révolution française, la France s'est toujours dit germanique. Hein. Eh bien, cette langue, le français qui est remarquable, mérite qu'on connaisse les racines. Et évidemment, et c'est surtout l'accès à la littérature qui me paraissait essentiel.
Est-ce qu'on forme une certaine forme d'esprit? Est-ce qu'on a une certaine forme d'esprit en étudiant ces deux langues mortes?
Je ne crois pas qu'on forme un esprit. Je crois qu'on arrose une plante et elle pousse. Et on peut essayer de faire sortir une orchidée. Et si c'est une ortie qui pousse, c'est une ortie qui pousse. Personnellement, ça paraît contradictoire, mais je n'ai pas une haute idée de... Si, j'ai une haute idée de la fonction de pédagogue. Je n'ai pas l'impression que le pédagogue soit aussi important qu'on veut bien le dire. Je ne dis pas que les enfants doivent pousser comme des mauvaises herbes. Il y a des herbes excellentes parmi eux. Mais on doit surtout les arroser, leur donner ce dont ils ont besoin. J'estime l'avoir fait spécialement par le latin et le grec, mais aussi par les mathématiques, par les sciences qui sont très importantes, par la musique, par les arts, par exemple la peinture. la peinture, c'est une chose extraordinaire.
Ce sont toutes des sciences, entre guillemets, qui sont enseignées chez vous dans cette école Scola Nova.
Tout est enseigné et aussi, c'est très créatif. Les enfants produisent d'eux-mêmes. C'est absolument étonnant de voir que les enfants qui, officiellement, n'ont jamais écrit de poésie, vous produisent des poèmes. Je crois que nous sommes au 58e fascicule, je crois, de poésie émise par les enfants. Et toutes les poésies ne sont pas égales, mais il y a de véritables chefs-d'œuvre, ça m'a toujours époustouflé.
Merci Stéphane Fay. Donc je rappelle que cette école Scola Nova a été créée en 1995, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Vous êtes bien petit pour apprendre le latin. Est-ce que vous connaissez déjà des
oui.
maximes en latin?
Oui.
Vas-y, comment tu t'appelles?
Oui, c'est Ita.
Bon, Ita, dis-nous quelque chose en latin.
Abamus. On a cours de latin le jeudi.
Alors les enfants, ça paraît un peu vieillot de parler latin, non?
Non.
Pourquoi?
Parce que c'est amusant de parler latin.
Lingua morta, lingua viva.
Non, c'est une langue vivante, tu veux dire.
Il veut dire que c'est une langue vivante.
Voilà, les traducteurs. Vous ne croyez pas qu'on va vous rire au nez si on vous dit, si vous allez ailleurs et que vous dites « Oh, moi je parle latin ». Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question de savoir si le latin existe?
Pour vous,
il est complètement intégré puisque vous êtes encore des petits, vous êtes en primaire et pas en humanité. J'ai des enfants de primaire devant moi et je vois déjà que vous comprenez quelques locutions latines.
Je souhaite d'apprendre une autre langue que le français et le néerlandais.
Oui, mais à ton avis, le latin, on ne le parle pas dans la vie courante, dans d'autres pays. Qui parle encore le latin?
La Finlande.
La Finlande, il y a du latin encore. Donc il y a encore des pays où le latin est encore bien vivant. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire du latin?
C'est drôle.
C'est drôle?
C'est chouette à apprendre, quoi.
Qui parlait le latin dans le temps?
Les Romains.
Les Romains. Bon, je sens qu'on va en dire plus et sur le latin et sur le grec aussi, puisque c'est une langue qui est véhiculée dans l'école.
C'est une langue différente des autres et voilà.
Entendre Stéphane Fay, donc le fondateur de cette école, Caroline, vous en êtes la directrice, Caroline Teusbart exactement, jeune directrice d'ailleurs, apparemment beaucoup de jeunes professeurs dans cette école. Caroline, donc on a entendu l'esprit voulu et développé dans cette école. Alors le projet pédagogique, ça s'articule comment? C'est bien joli d'avoir l'esprit, maintenant il faut que ça se pratique. Comment?
Alors bien sûr, donc, au départ nous avons repris la grille horaire qui existait dans l'enseignement je dirais traditionnel, c'est-à-dire avec les humanités classiques, latin, grec, dont j'ai moi-même bénéficié. Donc il y a maintenant 15 ans, nous avons repris cette grille horaire-là en l'adaptant un petit peu, c'est-à-dire en insistant davantage sur le côté vivant des langues, y compris du latin, puisque voilà, vous l'avez déjà évoqué, nous parlons latin à l'école, mais également pour les cours de langue, je dirais, moderne, c'est-à-dire qu'ils ont des cours en néerlandais, ils ont des cours en anglais. Ils ont un cours, par exemple, de géographie, toujours en néerlandais, l'histoire de l'art en néerlandais.
Ce qu'on appelle immersion, donc.
Voilà, un type d'immersion, mais bon, ce ne sont que quelques heures par semaine, donc il faut mesurer, évidemment, à partir de quand on peut parler vraiment, véritablement d'immersion. Et donc, le programme est essentiellement basé sur le programme latin-grec. Ça, c'est notre cheval de bataille.
Quelle est votre formation, à vous?
Alors, je suis juriste. J'ai découvert l'école au moment où elle a été fondée. J'étais en deuxième licence de droit à l'époque. J'ai terminé mes études, qui m'ont vraiment passionnée. Et puis voilà que j'ai changé d'orientation.
Et ça vous passionne ?
Avec beaucoup de joie. Et je suis là depuis 15 ans. Au début, c'était une année, mais il n'y avait que 3 élèves à l'époque, il faut le dire. Et ça fait 15 ans que la passion augmente chaque jour.
Et pourquoi elle augmente chaque jour, cette passion ?
Eh bien, parce que je me rends compte de plus en plus, et de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, que la formation et l'héritage classique est vraiment une base très, très importante.
Pourquoi ?
Et il y a quelque chose qui m'attriste un petit peu, c'est qu'on a l'impression qu'on perd nos racines. Et c'est vrai qu'un arbre qui va pousser de manière très majestueuse sera d'autant plus majestueux s'il a des racines bien ancrées. Si on veut bien comprendre notre présent et notre futur, il faut s'ancrer dans notre passé. Et je trouve réellement, j'ai moi-même fait cette expérience, que l'apprentissage des langues anciennes ouvre l'esprit, vous en parliez tout à l'heure. Bon, on parle toujours de la formation d'esprit, de l'étude des cas, et c'est exact. Il y a une certaine utilité, mais pourquoi faut-il faire toujours des études utiles ? C'est simplement que ça nous permet de comprendre réellement qui nous sommes et le monde qui nous entoure. Le monde d'aujourd'hui étant de moins en moins balisé par des limites, j'ai l'impression que ces points de repère de l'Antiquité vont énormément aider. Surtout que les anciens ont abordé tous les problèmes qui sont encore forts d'actualité. Et donc, leur permettre d'accéder à cette pensée leur apprend énormément de choses.
Alors, Caroline, puisqu'il y a section primaire et humanité ici,
oui.
Comment les petits accusent-ils le fait de faire du latin ?
Alors, ils aiment beaucoup. Et le grand problème du latin, qui a souvent, il faut bien le dire, une mauvaise réputation, c'est simplement qu'ils entendent leurs aînés en parler, qu'ils ont eu de temps en temps un contact avec un cours qui ne les a pas passionnés. Et c'est vrai que je dirais que s'il y a un mot qui peut résumer peut-être notre école, bon, à part qualité, que j'espère, c'est en tout cas la passion. Et je pense que les enfants, ils n'ont pas d'a priori, ils ne savent pas ce que sont les mathématiques en naissant, ni ce qu'est le latin, ni ce que sont les autres langues modernes. Et c'est la passion du professeur qui va se transmettre à cette jeune génération. Alors, quand ils sont en contact avec des professeurs passionnés, on n'est pas étonné de leur entendre dire qu'ils aiment le latin. Nous avons tous fait cette expérience à l'école. Il y avait des classes entières qui étaient passionnées d'histoire, passionnées de géographie. Il suffisait de penser aux professeurs qu'ils avaient. Combien de professeurs ? Combien d'élèves maintenant ? Alors, nous avons... le nombre fluctue généralement. Bon, nous avons une 60aine d'élèves qui sont donc en enseignement à domicile, puisque c'est le statut des écoles privées en Belgique. Alors, nous avons une série de professeurs, mais il y a énormément de bénévolat qui tournent autour de l'école. Et je pense que c'est cet argument-là aussi qui fait que cette passion, je dirais, est débordante. Et nous avons énormément de parents qui collaborent à l'école. Donc, on essaye vraiment de se mettre une équipe de gens qui ont certaines compétences, qui ont vraiment une motivation et qui ont envie de la transmettre aux enfants. Et donc, je dirais que plus de la moitié des gens qui enseignent à l'école ont leurs enfants à l'école également.
Alors, continuons à parler cours, horaires, pratiques. Bon, vous avez évoqué toutes les matières. générale, comme dans toutes les écoles. Oui. Mais ce que j'ai remarqué aussi ici, c'est que ce qu'on voit dans d'autres pays, si l'Angleterre, enfin les pays anglo-saxons, l'Allemagne ou que sais-je encore, il y a des cours qui se terminent plus tôt, ce qui permet alors, j'imagine, de pratiquer soit des activités artistiques ou sportives peut-être.
Exactement. Alors, bon, pour répondre d'abord à ce dernier point, en ce qui concerne les activités sportives, les enfants jouent énormément. Alors, nous n'avons pas d'heures et de salles prévues à des fins sportives. Je dirais plus pour une question d'infrastructure, parce que nous sommes encore une jeune école et nous avons d'abord veillé aux premières choses, c'était le programme latin-grec. Et donc, nous augmentons chaque année nos possibilités en fonction de ce que des amis peuvent nous offrir. Mais pour le côté artistique, nous voulons vraiment montrer aux enfants que le fait de s'instruire, c'est quelque chose de passionnant et de vraiment intéressant. Et nous voulons les pousser à avoir envie d'apprendre. Et donc, nous avons voulu en effet faire leur offrir un horaire un petit peu moins lourd pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, il n'y a rien d'obligatoire, prendre des activités supplémentaires. Mais alors, si je vous dis que sur nos 60 élèves, il y en a 22 qui font du piano, qu'il y en a une petite dizaine qui font un instrument à cordes et qu'ils font presque tous du théâtre, activités qui ne sont pas obligatoires, eh bien, vous comprendrez que l'émulation est un des meilleurs moyens, me semble-t-il, pour le leur faire choisir.
Est-ce qu'il y a une application, entre guillemets, pratique à la fin de cet enseignement? Est-ce que les petits jouent des concerts? Est-ce qu'il y a des pièces de théâtre?
Alors, bien sûr, Raphaël Fay vous en parlera plus en détail, puisque c'est lui qui orchestre, c'est le cas de le dire, un petit peu tout le domaine musical à l'école. Il organise des auditions où les enfants peuvent se présenter régulièrement. Il y a des concerts organisés également. Il y a même des élèves en humanité musicale qui vont pouvoir même jouer avec orchestre.
Donc, vous avez quel âge, Caroline?
Alors, j'ai 36 ans.
Et on vous sent très motivée. Alors, après avoir entendu le papa, on va entendre les deux fistons, Alexandre et Raphaël. Tous les deux professeurs dans cette école, tous les deux musiciens. Alors, vous êtes violoniste, Alexandre, et bon, a priori, on pourrait voir vous enseigner le violon.
Bah écoutez, oui, mon parcours à la base, c'est donc j'ai étudié le violon au conservatoire, donc la musique. Mais depuis de longues années, je me passionne pour l'histoire, pour le latin que j'ai appris dans cette école. Et donc, assez rapidement, j'ai commencé à transmettre dans cette même école, déjà depuis presque 10 ans. Donc j'ai commencé vraiment assez jeune.
Et vous sortez d'un conservatoire pour le violon ?
Oui, de conservatoire de Bruxelles et aussi je me suis perfectionné en Allemagne. Donc ma vie professionnelle est partagée entre les concerts, en Belgique et ailleurs, en tant que quartettiste principalement. Et alors j'enseigne dans cette école le latin et l'histoire.
Raphaël, idem. Raphaël, vous êtes musicien aussi, violoncelliste.
Effectivement. Donc j'ai étudié aussi au conservatoire de Bruxelles en même temps qu'Alexandre, dans la classe de Marie Alinck. Et j'ai commencé aussi assez jeune à donner des cours à Scola Nova, j'ai donné des cours de latin et des cours de musique. Et cette année-ci, j'ai vraiment décidé de me consacrer à tout ce qui était musical à l'école. Donc je m'occupe de la chorale, je m'occupe des cours de solfège, je donne des cours de musique de chambre quand il y a moyen de réunir plusieurs élèves autour d'un morceau, et je donne des cours de violoncelle.
Alors on va aller faire un petit tour du côté de la musique, parce que c'est quand même le but de cette émission Musique Académie, voir un peu ce qui se passe du côté des arts. On peut dire, les chers frères ici, que l'éducation de papa a été réussie, non ? Hein ? C'est en fait des petits humanistes. Enfin des grands, parce qu'ils sont très grands. Quel âge avez-vous, Raphaël ?
Donc moi j'ai 26 ans.
Et Alexandre ?
25 ans. Nous, on a fait nos études ici. Hein. Mon frère était le premier élève de cette école. Il avait 12 ans à l'époque. Et donc, moi, j'ai suivi l'année suivante. Et donc, j'ai fait 5 ans dans cette école. Et puis après, j'ai été au conservatoire de Bruxelles.
Et comme ressortissant, Raphaël, ça donne quoi ? Vous êtes content de l'enseignement de Scola Nova ?
Enchanté, mais je regrette un petit peu d'avoir participé au début et pas à ce qui se passe maintenant, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se sont rajoutées. Il y a moyen de faire du dessin, il y a moyen d'assister à des concerts. Ce n'était pas le cas à l'époque, parce qu'on était dans une petite
aussi.
Maison à Oprebé.
En attendant, je vous propose d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe et d'entendre nos amis musiciens. Voilà, bienvenue dans Musique Académie. Je vous rappelle donc que nous ne sommes pas dans une académie de musique ni dans un conservatoire, mais dans une école privée où l'enseignement général est donné, la Scola Nova. Et il y a aussi des cours de musique, comme on vient de l'entendre brillamment d'ailleurs, par ce jeune étudiant dont je vais découvrir à l'instant et l'interprétation, c'est-à-dire quelle heure vient-il de jouer, mais aussi comment s'appelle-t-il et quel âge il a.
Je m'appelle Pierre d'Absence, j'ai 14 ans. Et je viens de jouer un nocturne de Chopin, l'opus 55, numéro 1, je crois.
De mémoire, de surcroît. Alors, le professeur, on va lui dire bonjour aussi au professeur, bonjour. Parce qu'il a écouté de manière religieuse, on était tous en train d'écouter de manière religieuse son interprétation de Chopin.
Jusqu'au bout, hein, oui.
Alors, et vous vous appelez ?
Je m'appelle Mathieu Dormand.
Et vous êtes professeur de piano, bien entendu.
Je suis professeur de piano, entre autres à la Scola Nova.
Voilà, alors, qu'est-ce que vous pensez, vous ? Puisque si vous me dites entre autres, c'est que vous enseignez ailleurs aussi.
Oui, je ne suis pas exclusivement ici, mais
d'accord.
Je passe tout mon vendredi réservé à la Scola Nova.
Donc l'enseignement du piano, vous connaissez. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet scolaire de Scola Nova ?
Ben, le projet, moi j'ai rallié le projet en 2009 parce que Le projet est assez insolite, en fait, et assez unique. Et vraiment, moi, j'ai vu avec beaucoup de surprise cette école au milieu de la campagne, comme ça. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et en fait, c'est une école où, voilà, je n'avais rien vu de tel auparavant. Donc, j'ai été très attiré par ces élèves qui, en plein milieu rural, voulaient aussi pratiquer la musique. Et puis, souvent, qu'ils le font avec du talent, comme Pierre aujourd'hui, qui prépare un concours pour le mois de février. Donc voilà, on a aussi des ambitions avec les élèves. Et
quel concours ?
Quel concours tu prépares ?
Le Rotary Bruegel.
Le Rotary Bruegel, que je connais bien aussi dans Music Academy pour l'avoir développé plusieurs fois. Pierre, puisque c'est toi, tu as 14 ans. Comment tu es tombé ici dans la soupe, c'est-à-dire dans cette école ?
Ma maman avait des amis qui étaient ici et ma sœur est venue d'abord ici et puis mon autre sœur et puis moi.
Est-ce que tu es content d'être dans cette école ?
Oui.
Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'apporte plus qu'ailleurs en fait, puisque tu as fréquenté d'autres écoles, j'imagine, avant ?
J'ai été dans une autre école seulement en primaire, donc en humanité, je suis venu qu'ici.
C'était déjà différent. Donc alors ici, qu'est-ce qui te plaît ? De pouvoir justement pratiquer l'art musical avant, si je puis dire, la fin des cours, comme ça se pratique ailleurs, et où parfois pour beaucoup d'élèves, c'est assez astreignant de devoir se rendre dans une académie ou un conservatoire après les cours. Ici, on peut le faire à l'intérieur de l'école.
Bah oui, déjà,
c'est ça
qui te plaît ? Déjà ça me fait moins de trajet, et puis en plus... Les cours, j'ai jamais eu de cours de musique autre part qu'ici, donc je sais pas comparer par rapport à...
Donc tu as commencé la musique ici ?
J'ai commencé la musique ici.
À quel âge tu as commencé le piano ?
Il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans.
On avance donc, vite dans cette école.
Tout ton bagage pianistique vient d'ici, ouais. Tu n'as pas un autre prof ailleurs ?
Pas de solfège non plus ?
Non.
Carrément le piano et la lecture, ouais. Alors ça veut dire combien d'heures de répétition et de piano par jour ?
Je sais pas du tout, je compte
mais
pas.
Mais tous les jours ?
Oui.
Et tu parviens à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire à pouvoir répéter ton instrument, j'imagine que ça te plaît, puisqu'on te voit assez motivé, en tout cas dans l'interprétation, et pouvoir aussi suivre les programmes scolaires, qui ne sont pas évidents non plus. Quel est ton but, en fait, dans la vie ? De devenir musicien ?
Bah oui, je compte faire le conservatoire et donc devenir musicien, mais je fais en plus, comme je peux, l'école. Je suis comme je peux les cours et c'est assez compliqué parce que le niveau est plutôt élevé. Mais
ça demande beaucoup de discipline et d'investissement.
Oui.
Est-ce que tu trouves encore le moyen de t'amuser dans la vie ?
En faisant du piano.
On va retrouver le professeur Mathieu. En général, est-ce que tout le monde a son niveau comme ça ? Enfin, quand il répète, je vois cet investissement et cette interprétation de Chopin qui est quand même pas mal, avec beaucoup de sentiments et de cœur, de musicalité. Alors, est-ce que tout le monde a cette motivation dans cette école ?
Bah, chacun donne ce qu'il peut, de toute façon.
On est d'accord.
Le but ici, c'est de, on est avec des enfants qui ont chacun leur personnalité, leurs attentes aussi. Ce que j'essaie de leur donner, c'est une exigence, c'est de les accompagner dans une exigence, mais qui est aussi adaptée à ce que je sens d'eux. Hein.
Voilà, donc c'est vrai Pierre, on sent que lui...
Pierre a toujours dit, moi, le conservatoire, j'ai envie d'aller là. Ben, Pierre, c'est particulier, on ne peut pas dire que tous les élèves n'ont non plus ce parcours, mais Pierre, voilà, il a développé beaucoup de qualités. Maintenant, c'est aussi... Pierre, il sait que, voilà, s'il veut aller... au conservatoire, c'est effectivement...
Il y a un programme
voilà,
à développer.
C'est vrai que c'est un milieu exigeant. Hein, donc, si tu veux en faire ton métier, Pierre, tu sais que voilà, il faut travailler, il faut avancer. Mais voilà, on est là pour accompagner ça aussi. Et je pense qu'il y a certains élèves avec qui cette exigence peut être là et d'autres avec qui il faut savoir aussi voilà, ne pas demander, ne pas exiger plus que ce qu'ils peuvent donner.
Mais ce qu'on attend d'une école pareille, c'est qu'elle développe surtout l'esprit musical et l'envie d'en faire, tout simplement.
Ce qui est nécessaire de développer, c'est l'épanouissement des élèves. Donc si la musique les aide les amène à un épanouissement, alors on a gagné.
Mmh.
Eh bien, d'une classe à l'autre, on peut voir au cours de ce reportage, puisqu'on a vraiment changé de cadre, il y a un écho d'ailleurs ici quand je parle, que si ça ne forme pas spécialement des musiciens qui seront peut-être professionnels, en tout cas, ils m'ont l'air assez motivés. Alors, tu t'appelles Laurie, c'est toi qui viens de chanter cet extrait de Carmina Burana de Karl Orff, qui est une œuvre quand même assez rythmique. C'est difficile ce que tu as chanté ?
Moi, je ne trouve pas ça difficile, mais ça peut l'être pour certains.
Donc, tu as quel âge, Laurie ?
J'ai 17 ans.
Donc déjà une certaine maturité pour chanter justement cette œuvre de Karl Orff. Est-ce que c'est ton choix de chanter ça ? Parce que c'est très 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 élevé, très soprano donc.
Oui, parce que c'est élevé et j'aime beaucoup, parce que j'aime bien chanter aigu et parce que c'est en latin et que j'aime beaucoup le latin.
Ah ben voilà, on y arrive toujours. Figure-toi, c'est ce que je me disais en écoutant le Karl Orff, je me dis tiens, encore du latin. Alors pourquoi tu aimes beaucoup le latin ?
Pourquoi, je ne pourrais pas exactement expliquer, c'est une passion comme une autre. Et donc moi, dès l'âge de 12 ans, je savais que j'adorais le latin et que je voudrais sans doute en faire mon métier. Et donc...
En faire ton métier, c'est quoi alors ?
Sans doute l'enseigner.
Ah, l'enseigner, donc tu ne te destines pas à une carrière musicale spécialement ?
C'est une grande question pour l'instant, parce que j'aime l'un autant que l'autre. Et donc, je fais le latin à l'école, mais le chant plus en loisir. Et je me dis que j'aimerais peut-être faire ça plus tard, enseigner et puis chanter comme loisir.
Laurie, ça fait combien de temps que tu es dans cette école, toi ?
Je suis entrée ici il y a plus ou moins 3 ans et demi.
Alors, qu'est-ce que tu découvres de plus que ce que tu n'as pas découvert ailleurs ?
Scola Nova est
ou
en
de
fait...
moins bien,
oui.
On peut le dire aussi, hein ?
Pour moi, Scola Nova, c'est une grande famille. Une des premières choses qu'il y a, mis à part le latin, et qui est beaucoup plus présente que dans une école normale, c'est l'esprit qu'il y a dans cette école. C'est vraiment... Tout le monde est là pour vous aider. Quand on a besoin d'aide, on le demande. Et c'est une école très, très généreuse, qui nous donne énormément de choses. Et où il y a une ambiance toujours très bonne, autant entre les élèves qu'entre les profs.
Donc, tu t'y sens très bien.
Oh oui.
Alors, tu quitteras quoi, l'année prochaine ?
Mais moi, j'ai terminé en fait en juin, ma dernière année. Mais je reviens pour donner cours aux plus jeunes et pour poursuivre.
En primaire, donc, à la Scola Primaire ?
Non, aux premières et deuxièmes humanités.
Ah, déjà ? Oui. Et tu vas faire des études ou tu ne sais pas encore ?
Oui, je suis en train de préparer mon jury central afin d'avoir un diplôme. Mm-hmm. Et alors, en juin, j'aurai mon diplôme et puis après, je commencerai des études classiques.
Alors, quand tu es arrivée dans cette école, tu sais qu'il y avait un programme artistique aussi. Est-ce que le chant, tu le pratiquais déjà ou tu l'as commencé ?
Je faisais un peu de chant en chorale. Mm-hmm. Et puis, quand le professeur de chant est arrivé un peu après moi, j'ai commencé les cours.
Voilà. Que le chant ou instrument aussi ?
Non, que le chant. J'ai fait un peu de piano avant, mais ça ne me passionnait pas autant que le chant.
C'est l'art lyrique qui te passionne, manifestement.
Oui.
On te souhaite de continuer à la fois l'art lyrique. C'est quand même très important de faire de la musique. Et j'espère que tu l'enseigneras peut-être aussi, qui sait, dans cette école, pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas. Je vais essayer, si c'est possible, de faire le conservatoire aussi, soit en même temps, soit après mes classiques. Et alors, qui sait, pourquoi pas l'enseigner ?
Est-ce que parfois, tes copains, copines qui ne sont pas à la Scola Nova, est-ce que parfois tu te sens en décalage ou bien c'est finalement quelque chose dont vous ne parlez pas et qui n'est pas un obstacle ?
Intellectuellement, je me sens un peu en décalage parce que je vois que j'ai appris beaucoup plus que ceux de mon âge qui sont souvent quelques années en dessous de moi et qui ont appris beaucoup moins et qui ont eu un enseignement moins complet. Mais sinon, au niveau humain, je ne me sens pas spécialement en décalage. Non.
Alors on ne te traite pas d'intello tout court ?
Et moi-même, je me traite d'intello, parce que j'adore étudier, j'adore les études, j'aime apprendre toujours plus, donc je trouve pas que ce soit péjoratif, le mot intello.
Merci beaucoup, Laurie.
Merci à vous.
projet pédagogique peut paraître, je dis bien peut paraître, je n'ai pas dit qu'il l'était, élitiste. J'imagine que vous avez eu ce genre de critique aussi. Est-ce qu'il y a des échecs? Est-ce qu'on évite les échecs? Ou est-ce qu'on dit à ceux que ça ne convient pas, bon, bah, coup de petit, va voir ailleurs? Ou on les encourage? Stéphane.
Mais tout d'abord, votre mot élitisme me fait penser que c'est un des grands mots qui soutient notre démocratie, puisque nous élisons. Donc, nous sommes élitistes dans le sens que nous élisons ce qu'il y a de meilleur, comme font d'ailleurs tous les gens qui vont voter et qui choisissent les meilleurs politiciens. Donc, aboyer contre l'élitisme, ce serait très antidémocratique. Et donc, je crois que quand on parle de l'école de la réussite, d'abord, ça voudrait dire que nous sommes tous des descendants de l'école de l'échec. Mais imaginons qu'on transpose en médecine. Décrétons que dans un plan quinquennal, dans 5 ans, nous faisons de la médecine de la santé. Il n'y a plus un seul malade en Belgique. Et dans 5 ans, vous aurez des gens qui boitent, des gens sur un grabat, qui vont dire « je me porte très bien ». Donc évidemment, le malheur existe, les échecs existent dans la vie, mais par contre, si vous parlez réellement de réussir une année, pas réussir une année, je suis tout à fait d'accord avec les idées actuelles. Le fait de dire à un enfant « tu as raté ton année », c'est idiot. D'abord, il n'a une expérience même absurde est très enrichissante. Et le simple fait de dire que quand on a en dessous de 5 sur 10, on a raté, alors que si on a 5,2, on a réussi, c'est non seulement, à mon avis, stupide, parce que le 5, c'est la moyenne arithmétique entre le 0 absolu et celui qui fait normalement ce qu'on lui demande. Donc le 10 est tout à fait atteignable. Et en plus, nous pouvons très bien, il nous arrive souvent de laisser passer des élèves qui ont en dessous de 5. Et parfois de ne pas laisser passer ou de permettre de recommencer une année à un élève qui aurait bien au-dessus de 5, pour des raisons très différentes. Donc ça n'est pas une idée de réussir une année ou de rater une année. Ce n'est pas du tout une espèce de barre absolue, justifiée par une idéologie, je ne sais pas d'où elle sortirait. Non, un enfant pousse, grandit et nous essayons de faire le maximum. Mais c'est certain que nous ne réussissons pas toujours. Et il arrive comme en médecine que nous n'ayons pas réussi ce que nous avions essayer de faire, et que d'autres réussiront mieux que nous. Mais un échec dans la vie peut être une réussite dans 2-3 ans, pour autre chose.
Quand je vous entends, Stéphane Fay, j'ai l'impression d'entendre Albert Jacquard, qui a toujours défendu, le généticien, qui a toujours défendu ce type d'enseignement en disant, bon, la réussite ou l'échec, peu importe, puisque, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout faire prendre conscience à l'enfant, bah, tu as raté, bah, recommençons et voyons où tu as raté. Ça, c'est très important. Ce qu'on ne fait pas dans les écoles traditionnelles. On l'est, malheureusement, on les fustige, on leur dit, va voir ailleurs, souvent. On les fait doubler. Ce qui n'est jamais, à mon avis, tout à fait bon. Ou alors, ce qui me fait penser, quand je vous entends parler, je pense à Erasme aussi, qui était quand même un des grands maîtres et qui a quand même favorisé l'enseignement, qui l'a épanoui aussi auprès des étudiants. Mais Erasme a fait beaucoup de choses aussi pour l'enseignement.
Oui, je suis tout à fait de votre avis. Et réellement, je peux vous donner un exemple. Nous avons eu une année, dans la même classe, un élève classé comme surdoué, qui était vraiment avec des capacités énormes, et un élève refusé dans l'enseignement même général, et je crois dans l'enseignement technique, qui vient maintenant d'avoir son jury. Et ils étaient copains comme cochons. Ils s'entendaient à merveille. Donc, vouloir cloisonner les gens, c'est une erreur, à mon avis. C'est une erreur. Ça fait du bien à tous les deux.
Après Laurie, d'autres artistes. Une jeune fille devant moi qui s'appelle...
Bonjour, je m'appelle Isor.
Et tu as
14 ans.
Isor, tu vas nous jouer manifestement du violon et accompagné au piano par...
Pauline Caplier.
Qui est professeure à la Scola Nova. Isor, tu vas nous jouer quelle œuvre, toi?
Un concertino de Reading.
Thank you. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés à monter ce projet, Caroline ou Stéphane ?
Disons que les premières années n'ont pas toujours été faciles. Et c'est assez étonnant parce que bon, les latins grecs ont tout de même, pendant, je dirais, de nombreuses décennies, eu leur lettre de noblesse en Belgique. Mais je pense tout de même qu'un projet nouveau qui n'est pas encore connu, qui n'a pas encore fait ses preuves, évidemment, suscite peut-être certaines craintes de la part des parents. Donc, au début, il nous a fallu, évidemment, je dirais, voilà, nous serrer les coudes pour imposer notre projet. Et puis, je pense qu'à partir du moment où nos premiers élèves se sont mis à travailler, ont terminé leurs études universitaires, bon, je pense qu'on peut juger un arbre à ses fruits.
Et il y a beaucoup de fruits, apparemment.
Alors, nous avons maintenant déjà, une quinzaine d'élèves qui travaillent. Nous avons probablement une vingtaine d'élèves à l'université pour l'instant. Et je dois dire que réellement, les retours de nos élèves, puisqu'on a beaucoup de contacts avec nos anciens élèves, sont tout à fait satisfaisants.
Comme c'est une école privée, précisons aussi que ces élèves, bon, il n'y a pas un diplôme qui est dit reconnu, donc il faut passer le jury central, il faut...
Exactement.
Alors, le diplôme primaire aussi, c'est l'examen cantonal.
Exactement. Alors, nous ne sommes pas une école de préparation au jury. Il en existe et de très, très bonnes. Donc, nous sommes une école de formation générale et nous veillons, en fin de cycle, à ce que nos élèves puissent obtenir ce diplôme.
Oui, parce qu'ils attendent des parents quand même, hein, s'ils viennent ici.
Exactement. Mais nous ne voulons pas adapter nos programmes. C'est-à-dire que les programmes des diplômes de fin d'études ne sont dirigés que sur certaines matières, par exemple en histoire, que l'histoire du XXe siècle, mais nous voulons également leur enseigner l'histoire de l'Égypte, de la Grèce, de la Mésopotamie, de Rome, etc.
Et ça dire que vous prévenez les parents, bien entendu, et que les élèves devront s'investir doublement pour préparer leur jury central ?
Alors, exactement. Les élèves s'investissent, et c'est un excellent exercice pour se préparer aux autres études. Et donc, souvent, les parents sont un peu effrayés par cette épreuve, mais c'est une excellente épreuve. Et puis, il faut bien dire que l'école est là aussi pour les aider s'ils le souhaitent. On a des élèves qui le préparent par eux-mêmes en sixième année, puisqu'ils peuvent terminer éventuellement un an plus tôt chez nous. Il y a des élèves qui le préparent avec l'aide de l'école. Mais en général, un élève qui a été formé, je dirais tout à fait capable d'assumer ses examens. Alors, vous parliez justement d'échecs tout à l'heure. Il est certain qu'on a de temps en temps des élèves qui quittent l'école. Pour quelles raisons ? Soit parce qu'ils n'ont plus tellement envie de faire des latins grecs, ce qui est tout à fait respectable, donc ils changent d'orientation. Soit parce qu'ils ont l'impression que cela ne leur convient plus pour l'une ou l'autre raison. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est que les élèves aient des cours intéressants. Il y a des élèves qui vont capter 95% de la matière, d'autres qui vont capter moins, mais chaque élève évolue à son rythme. Et dans une petite structure, évidemment, on peut se permettre d'être un petit peu plus individualiste par rapport à chaque particularité d'enfant.
Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à l'avenir à cette école pour 2011 ? Je vais vous demander à vous, à Caroline et à Stéphane.
Ce que nous pouvons souhaiter, réellement des élèves passionnés, des élèves qui ont envie de s'instruire, qui ne savent peut-être pas à la base ce que sont le latin et le grec, mais qui sont prêts à le découvrir, à venir même éventuellement, venir écouter une ou deux journées, puisque nous pratiquons les portes ouvertes permanentes, qu'ils viennent passer une journée ou deux, qu'ils viennent voir si ce qu'on a à leur apprendre et dont on parle malheureusement moins aujourd'hui, si cela pourrait pas leur apporter quelque chose en plus.
Il y a un site, hein, on peut...
Alors, il y a un site internet, scolanova.be. Scolanova, c'est SCH, puisque c'est un mot qui vient du grec. Et alors, on n'a pas parlé aussi, évidemment, de toutes les langues modernes qui sont basées sur le latin, évidemment, dont on aurait aussi pu parler, puisque, bon, l'italien et l'espagnol, il y a des cours, d'ailleurs, d'italien, d'espagnol, d'allemand dans l'école. Donc, on pourra encore parler de plein de choses, bien sûr.
Merci, Caroline.
Moi, mon grand souhait, ce serait, comme je n'ai jamais été en soi un grand partisan du privé, moi, je ne suis pas pour les tartes à la crème, donc mon souhait, ce serait vraiment ce que plusieurs hommes politiques avaient lancé comme campagne électorale il y a pas mal d'années, c'est que l'État rembourse par un chèque scolaire aux pauvres parents qui doivent payer deux fois l'enseignement, puisqu'on est taxé quand même dans les 70% des revenus, c'est-à-dire 7,5 fois plus que l'époque où on demandait la dîme. Et donc, il faudrait que notre enseignement, qui a quand même des solutions à proposer, puisse être remboursé par, aux parents, par l'État. Ça permettrait l'accès à tous.
Puisqu'il y a quand même un minerval à payer chaque mois, il faut bien le dire, hein, ici dans cette école.
En effet. Il y a un minerval, mais nous ne voulons exclure personne, donc il y a toujours un arrangement possible.
Je vous remercie et on conclura donc par une petite note grecque.
Chaïrete, ou chalopanestin, eleni zain taefonei.
Voilà, c'est avec un extrait de la cantate BWV 131 pour soliste, chœur et orchestre de Jean-Sébastien Bach que se termine ce reportage consacré à Scola Nova, réalisé ici par Laurent Grolus sur place et en studio Elsa Grelot. Cantate de Bach, ici, dirigée par Stéphane Fay lui-même avec le chœur Aurora Nova et l'orchestre L'Heure d'Or, ainsi que les solistes, c'est-à-dire Chris Demore à la basse, ici dans l'extrait que nous avons choisi. Un CD d'ailleurs consacré uniquement à Jean-Sébastien Bach et édité par l'école Scola Nova. Alors je ne voudrais pas m'en aller sans saluer mes invités du jour. Je dirais donc tout simplement Ave à Alexandre, Stéphane et Raphaël Fay, Caroline Teusbart. Merci aussi aux jeunes violoncellistes, c'est-à-dire aux deux petites Calliope et Alix qu'on a entendues tout au début de cette émission. Elles ont interprété le même extrait, c'est-à-dire un petit morceau intitulé « Le Duc d'York ». Elles étaient accompagnées par Raphaël Fay. Gabriel était au violon dans un extrait du concerto de Zeitz, accompagné au piano par Pauline Caplier, également professeure à la Scola Nova. Et puis nous avons écouté bien sûr Laurie au chant dans un extrait de Carmina Burana et Isor au violon dans un extrait du concertino de Reading. Alors je voudrais aussi remercier tous les enfants présents qui nous ont accueillis au début de l'émission. Merci aussi à l'équipe pédagogique qui nous a suivis tout au long du reportage, très présents, ainsi qu'aux parents. Et félicitations à tous pour ce bel exemple de motivation. On en pense ce qu'on veut de l'école, mais en tout cas ce qu'on peut souligner, c'est la motivation et la passion qu'ils ont à défendre leur enseignement, leur type d'enseignement. Nous avons pu aussi écouter pour la musique quelques extraits du CD édité par Scola Nova à l'occasion des 10 ans de l'école, avec quelques petits airs, quelques petits morceaux, des extraits du concerto en mi majeur pour violon BWV 1042 de Bach, ainsi qu'un extrait de l'Exultate et Jubilate de Mozart, que chez le 165. Stéphane Fay était également à la direction et comme soliste, il y avait Adam Kornichevski au violon et Ivona Sobotka soprano. Et si vous aimez le latin, il y a des méthodes à 6000 sur CD qui existent en latin, intitulées Sermo Latinus Vivus. Et pour les coordonnées de la Scola Nova, encore une fois, je vous les redonne. La Scola Nova est donc située à Incourt, chaussée de Namur numéro 100, c'est dans le Brabant wallon. Le téléphone 0474 53 96 31, le mail info@scolanova.be et enfin le site www.scolanova.be. Scola s'écrivant attention S-C-H-O-L-A, Scola Nova en un mot. Merci à tous et puis nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec d'autres découvertes dans Musique Académie. Vous savez que vous pouvez consulter notre site à nous, musique3.be, et sur ce site vous trouvez à la fois le podcast et à la fois le blog pour consulter toutes les photos du reportage. Voilà, je vous remercie d'être resté à l'écoute et puis je n'ai plus qu'un mot à dire. À bientôt.